ça a l'air de marcher. Donc, Romains chapitre 11, on va lire. Donc, dans le chapitre 10, on a vu que le peuple d'Israël a cherché la justice par les œuvres et il ne l'a pas trouvée, tandis que les païens qui ne la cherchaient pas, Dieu s'est manifesté à eux et ils l'ont obtenue par la foi. D'accord? Et Paul dit, eh bien, mon vœu, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage, verset 2 du chapitre 10, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Et ensuite, Paul explique que pourquoi on est sauvé par la foi. Il rappelle un petit peu ce qu'il a dit au chapitre 3 et 4, sauvé par la foi et non pas par la loi. D'accord ? Et il explique aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur, qu'il soit juif ou grec, sera sauvé. D'accord ? Mais il dit par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse entendre l'évangile. Ok ? Et il explique aussi que Israël a entendu ce message, mais il y a eu une sorte d'endurcissement ou de rébellion, verset 21, au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant », en citant Ésaïe 65. Maintenant, on arrive au chapitre 11, je dis donc « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, verset 7 de Romains 11, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. » Et David dit « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. » Je dis donc, verset 11, « Est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu étais greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine donc qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Et on verra la suite après. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il pose d'abord la question, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? La réponse, c'est non. Premier argument, moi aussi, je suis israélite. Or, à l'évidence, si Dieu a sauvé Paul, c'est qu'il ne l'a pas rejeté. D'accord? Donc, ne serait-ce qu'à cause de Paul, s'il n'y avait eu que Paul qui était au Seigneur, c'était déjà une preuve que Dieu n'avait pas rejeté son peuple. Deuxième argument, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. On a vu au chapitre 9 des Romains ce qui concernait l'élection. Et donc, si Dieu connaît d'avance nos choix, pourquoi est-ce qu'il nous aurait choisis, sachant à l'avance que nous allions le décevoir? Et pourquoi est-ce qu'il nous rejetterait? D'abord, il nous choisit, puis après, il dit, oh non, finalement, je le rejette. Non, si au départ, il nous a choisis, tout en sachant tout ce qu'on allait faire de mal, c'est qu'au final, il veut nous garder. Ok? Ce ne serait pas logique de la part de Dieu de rejeter son peuple alors qu'au départ, il l'avait choisi parce qu'il connaît tout d'avance. Vous voyez? Dieu savait à l'avance qu'il y aurait un endurcissement d'Israël. Dieu savait à l'avance qu'il aurait des déboires avec ce peuple, mais il n'a jamais, au grand jamais, abandonné son alliance avec Abraham. Vous voyez? Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture, ce que l'Écriture rapporte à propos d'Élie? Alors, l'histoire d'Élie, Élie était prophète du temps de Jézabel. Achab était roi, Jézabel manipulait tout le monde, et le royaume du nord d'Israël était, on voit ça dans 1 Roi chapitre 17, 18, et, enfin à partir du chapitre 16, le royaume du nord, qui était séparé de Juda, était donc adonné à l'idolâtrie. Il y avait les veaux de Jéroboam, à Bethel et à Dan, et puis en plus avec Jézabel, qui était une païenne. Donc Achab avait épousé une païenne de Sidon, je crois, enfin d'une qui adorait Baal. Et donc tout Israël a commencé à adorer Baal. Il y a eu un temple qui était fait à Baal, il y avait des prêtres de Baal, etc. etc. Et Élie dénonce cette idolâtrie, et comme signe prophétique, il y a la sécheresse dans tout le pays. D'accord? Et Élie confronte Jézabel. Il y a les prophètes de Baal ce jour-là qui sont tués. Élie doit s'enfuir parce que Jézabel, bien sûr, veut le tuer lui à son tour. Et il est découragé. Il va à la montagne d'Horeb. Et là, il a une conversation avec Dieu. Et il dit à Dieu, je suis resté moi seul, comme pour dire, il n'y a plus que moi qui suis croyant dans ce pays. Et tout le reste, ils ont tous fléchi les genoux devant Baal. Et c'est là que Dieu lui répond, non, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, tu n'es pas le seul à avoir résisté. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous voyez? Verset 5, donc Paul applique ça au temps présent, au temps de Paul, tout simplement. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et puis ensuite, il y a un petit développement par rapport à la grâce et les œuvres, parce que rappelez-vous que le fil conducteur de toute l'épître aux Romains, c'est qu'on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Et il dit ici, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. En d'autres termes, même si Israël a fait des erreurs, même s'ils sont mal comportés, l'élection, elle ne bouge pas. Dieu a choisi, Dieu a décidé. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le choix de Dieu ne va pas bouger pour autant. Vous voyez, si c'est par grâce, c'est par grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Bon. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Là, il reprend ce qu'il disait à la fin du chapitre 9, au début du chapitre 10. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. En fait, littéralement, c'est marqué comme ça. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. En d'autres termes, quand il est dit ici, l'élection l'a obtenu, ou les élus l'ont obtenu, ça veut dire que Israël, dans son ensemble, a laissé passer le train, est resté sur le quai, voyez. Mais, ça c'est Israël dans son ensemble. Il y a néanmoins un reste, selon l'élection de la grâce, qui est toujours resté fidèle, voyez. Et la preuve, c'est les dizaines de milliers de juifs à Jérusalem qui se sont convertis pendant le réveil de Jérusalem après la Pentecôte. Selon qu'il est écrit, verset 8, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, tient leur dos continuellement courbé. » C'est-à-dire que c'est comme des malédictions sur ceux qui ne veulent pas croire. Vous voyez ? Alors, il est parlé ici, verset 8, d'un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. On va lire Ésaïe 29. C'est donc la citation ici qu'on a, Ésaïe 29. Oui, il leur a donné un esprit d'assoupissement. Et chez toi ?
Il a rendu leur esprit.
D'accord. On va voir dans Ésaïe. Oui, c'est pas tout à fait pareil.
Moi, je vois la différence entre un esprit, genre un démon.
Et leur esprit, ouais. Ouais. Verset 10 de Ésaïe 29. Car l'Éternel a répondu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, entre parenthèses les prophètes. Il a voilé vos têtes, entre parenthèses les voyants. Toute la révélation est pour vous comme des mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine ». Et ce texte de « Son cœur est éloigné de moi » est cité par Jésus. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À force, si vous voulez, de vouloir se sauver par l'application de la loi, mais sans la foi, ils se sont endurcis, ils ont voulu faire leur salut par leurs propres œuvres, par leurs propres efforts, par leur propre sagesse, et ils se sont éloignés, ils n'ont pas dépendu, ils n'étaient pas dépendants de Dieu. Ils n'étaient pas dans la foi, dans ce sens-là. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il est dit que Dieu leur donne cet assoupissement et cette forme, on pourrait dire, d'aveuglement. Regardez encore dans Matthieu, chapitre 13. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle, c'est choquant, hein ? Vous n'aimez pas ça, hein ? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, il y a une forme de jugement ici, d'accord ? Cette forme de jugement, c'est que ceux qui ont fermé leur cœur, alors Dieu leur empêche de comprendre et de voir. Vous voyez ? Mais ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y en a dont les disciples, dont Paul, dont Élie, dont le reste, selon l'élection de la grâce, si vous préférez, qui, eux, s'ouvrent et reçoivent le message et se convertissent, comprennent avec leur cœur, voient avec leurs yeux, entendent avec leurs oreilles. Vous suivez ? Et puis, il y en a qui s'endurcissent. Et c'est Dieu lui-même qui, en quelque sorte, alors, va comme confirmer cet endurcissement en leur envoyant un esprit d'assoupissement ou une sorte de voile qui est jeté sur leur cœur, comme dit Paul, on va lire encore dans 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, de Corinthiens 3, 12, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est intéressant, ça. Vous voyez ? Il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. C'est Madame Vives qui me racontait, il y a des années, qu'elle était juive orthodoxe, elle s'est posé des questions sur l'évangile à cause de la conversion de son mari pour finir un jour toute seule dans sa chambre. Elle a ouvert son Tanakh, l'Ancien Testament. Elle est tombée sur Ésaïe 53. Et quand elle a lu ce texte, le voile a été enlevé. Et tout à coup, elle a vu. Vous voyez ? Alors qu'elle le connaissait. Mais c'est parce qu'il y avait un voile qui était là qui l'empêchait de voir. Et donc, il y a un moment pour la conversion. D'accord ? Il y a un moment pour la conversion. Mais c'est comme si jusque-là, on n'arrive pas à voir. Vous savez, ce problème du voile qui est spécifique d'Israël, dans l'économie de Dieu, dans l'histoire du salut, mais il est aussi typique de plein de gens, qu'ils soient juifs ou pas juifs, quand ils résistent à l'évangile et tout à coup, il y a la révélation. Et la même personne dit, mais comment j'ai pas pu voir ça avant ? S'il n'y a pas, Paul dit, c'est en Christ qu'il disparaît. S'il n'y a pas la révélation, s'il n'y a pas la lumière de Christ, qui a dit, je suis la lumière du monde, on reste dans les ténèbres. Vous suivez ? Donc, on va revenir maintenant à Romains 11. Verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Maintenant, vous comprenez mieux. Vous voyez ? Vous savez que les disciples eux-mêmes, les 12, enfin les disciples d'Emmaüs en tout cas, mais les 12, c'est pareil. Hein. C'était pas mieux, comme dirait l'autre. Ils rencontrent Jésus après la résurrection et puis leurs yeux sont empêchés de le voir, de le reconnaître. Et puis Jésus, il leur pose des questions comme un ami, comme ça, un compagnon de route, pour voir un petit peu comment ils vont réagir. Et puis ils disent, voilà, comment tu es le seul qui n'a pas entendu parler de ce grand prophète Jésus qui a fait des miracles, etc. Et là maintenant il est mort comme un misérable et on est désespéré, c'est terrible ce qui est arrivé. Es-tu le seul à Jérusalem qui n'a pas entendu parler de cette histoire ? Et puis Jésus dit non, racontez-moi, quoi ? De quoi s'agit-il ? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit ? Verset 25 de Luc 24, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et puis là, il commence à leur expliquer ce que les Écritures, donc l'Ancien Testament, révèlent à propos de Jésus prophétiquement. D'accord ? Et puis, quand ils rompent le pain avec eux, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Et puis ensuite, il va voir les onze. Et puis, parce que Judas, entre deux, n'est plus dans l'équipe. Et puis au verset 45 de Luc 24, alors il leur ouvrit, verset 44, et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand ils étaient avec Jésus, c'est quand même un privilège, Jésus leur a tout expliqué. Ils n'ont pas compris. Parce que leurs yeux étaient empêchés de voir, même quand ils étaient avec Jésus. Et au moment de la résurrection, qu'est-ce qui se passe au verset 45 ? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et dans le passage parallèle de l'évangile de Jean, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas comprendre. Ok ? S'il y a un voile sur le peuple d'Israël, il y a aussi un voile sur les païens. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, de nouveau ce voile, hein, 2 Corinthiens 4, 3. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez ? Et ensuite, il parle de Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, donc par Jésus-Christ. » Et il dit ici « Si notre évangile donc est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Donc il y a vraiment un voile sur les nations, il y a un voile sur Israël, il y a un voile sur tout le monde. Pas que sur les Juifs, vous voyez ? Et puis, il y a des temps de visitation, il y a des temps où Dieu enlève ce voile, d'accord ? Et il ne peut disparaître qu'en Jésus-Christ, quand Christ est prêché et annoncé. Vous voyez ? Verset 11 du chapitre 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché ? Le mot trébucher dans la version Colombe, parce que le verbe broncher en français d'aujourd'hui, ça fait un petit peu loin de notre vocabulaire habituel. Est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché ? Parce qu'ils ont trébuché. Ils se sont, comme on dit vulgairement, ils se sont manqués quand Jésus est venu. Ils n'ont pas, ils ont été aveuglés là, vous voyez, le peuple, globalement, mais je ne parle pas du reste fidèle, je ne parle pas du réveil qu'il y a eu ensuite, mais sur le moment, ils n'ont pas réalisé que c'était vraiment leur Messie. Ou ceux qui le réalisaient ont eu tellement peur qu'ils ont préféré ne pas le voir, etc. etc. Vous voyez, on peut s'en rentrer dans les détails. Donc il dit, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché ? Réponse, non. Vous voyez ? Non. Le but de Dieu, ce n'était pas de les faire tomber et puis les laisser par terre. Ce n'était pas ça. Le but de Dieu, c'était quoi ? Par leur chute, le salut est devenu accessible aux nations, parce que le mot païen, c'est le mot nation, en fait, afin qu'ils soient excités à la jalousie. En d'autres termes, pendant que eux s'endurcissent et que ce voile est jeté sur leur cœur et qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ce Jésus soit leur Messie, parce que ça ne colle pas avec leur compréhension des Écritures, pendant ce temps, l'Évangile est annoncé aux païens, aux nations. Et eux, évidemment, ça les énerve en disant « Mais comment est-ce que ces païens peuvent entrer dans l'Alliance, alors qu'ils ne connaissent pas la loi comme nous on la connaît, ils ne font pas tous les efforts que nous on a fait, et puis Dieu comme ça les sauverait par grâce ?» Ça les rend jaloux. C'est l'histoire du grand frère et du frère cadet dans la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15. Quand le fils prodigue, il revient, lui qui a mangé son héritage avec les prostituées, etc. Et puis qu'on lui fait la fête, et le fils aîné dit, et moi, j'étais fidèle pendant toutes ces années, j'ai même pas pris un chevreau, tu m'as même pas donné un chevreau plutôt pour faire la fête avec mes amis. Et puis quand lui, ce païen, il revient, on lui fait la fête. Il est jaloux. Vous voyez ? Et c'est là que le père peut lui parler en disant, mais t'as pas compris. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux prendre un chevreau tous les jours si tu veux. Donc même le frère aîné n'avait pas compris le père. Et donc on a tous un voile sur les yeux. Lui aussi avait son voile. Vous comprenez ? Alors qu'est-ce que dit Paul ici ? Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin que le peuple d'Israël, qui s'est endurci, soit excité à la jalousie. Et donc que ça les ramène vers Dieu, en disant, ben, moi aussi je veux cette grâce. Vous comprenez ? Or, si leur chute a été la richesse du monde, oui, la richesse du monde, dans le sens que l'évangile a été prêché aux nations, grâce au fait que pendant qu'Israël était endurci, l'évangile a pu aller plus loin, si vous voulez. Par étant juste, Dieu a commencé, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, dans les évangiles. Je commence par Israël. Je ne veux pas m'adresser aux païens, parce que c'est eux les héritiers. C'est lui le fils aîné. Donc c'est lui en premier qui doit entendre l'évangile. Mais au bout du compte, comme une bonne partie n'a pas voulu entendre, alors, dans les Actes des Apôtres, Paul dit, selon certains textes d'Ésaïe, « Ok, nous nous tournons vers les nations. » Et là, les Juifs sont furieux. Ok, ils ont des raisons de l'être. Et Paul dit, « Oui, c'est pour les exciter à la jalousie. » Parce qu'en voyant la grâce qui est faite aux païens, tout à coup, ils disent, « Mais alors, ce n'est pas la loi qui va me sauver, c'est la grâce. » Vous comprenez ? Bien sûr, c'est un peu caricaturé ce que je vous dis, mais ça va dans ce sens-là. Or, si leur chute a été la richesse du monde, donc les nations ont reçu l'évangile, et leur amoindrissement la richesse des nations, des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Alors, en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot plénitude, pléroma en grec. La plénitude d'Israël, c'est quand tout Israël se tourne vers le Seigneur. Ok ? C'est quand tous reçoivent l'évangile. Et Paul dit, attention, prophétiquement, il dit, pour le moment, leur endurcissement, leur mise à l'écart est une richesse pour le monde. Alors vous imaginez que le jour où eux rentrent de nouveau dans la grâce et comprennent la grâce, vous imaginez si leur mise à l'écart était la richesse du monde, leur réintégration, ça va être l'apothéose. Et le monde va être d'autant plus béni. Vous voyez ? Parce que si, quand leur position est difficile, et celle d'un endurcissement, on est quand même béni. Alors le jour où ils sont plus dans cette espèce de restriction, alors évidemment on sera encore plus béni, parce que Israël a été créé pour bénir le monde. Puisque Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez ? Je vous l'ai dit, verset 13, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. C'est-à-dire, je dis à mon peuple, vous voyez, moi, je suis envoyé par Dieu vers les nations, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Hein ? Il les provoque. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, ou littéralement de ma chair, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? C'est très important ici que le mot au verset 15 est traduit par leur mise à l'écart dans la nouvelle traduction seconde, 1975, parce qu'autrefois c'était si leur rejet a été la réconciliation du monde. Mais ce n'est pas le même mot que dans Romains 11, verset 1, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Et ce serait contradictoire que d'un côté Paul dise il ne l'a pas rejeté, puis que là ils disent leur rejet a été la réconciliation du monde. Non, pas le rejet, leur mise à l'écart. Parce qu'un rejet, ça veut dire je t'ai rejeté, tu ne pourras plus revenir à la maison. C'est-à-dire qu'une mise à l'écart, c'est plus une sorte de mise sous discipline, vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'on est rejeté. Dieu n'a jamais rejeté son peuple, vous voyez. c'est plutôt un endurcissement de cœur. Donc ici, on peut dire que dans ces versets 11 à 15, il y a une prophétie. Ok ? C'est vraiment une prophétie. Paul est prophétique parfois. Il dit par exemple dans Galates, dans les derniers temps, les hommes seront, etc. Donc des fois, il reçoit des prophéties. Ici, il prophétise, il dit, attention, à la fin de l'histoire du salut, quand Israël va être réintégré, quand la plénitude, quand l'ensemble d'Israël va se tourner vers son Messie, eh bien, si leur mise à l'écart était la réconciliation du monde, vous imaginez qu'à ce moment-là, ce sera encore mieux. Vous voyez ? Ce sera une résurrection. Maintenant, on arrive au verset 16. Paul prend deux images. Il prend la pâte, les prémices et la pâte. C'est-à-dire qu'on apportait, il y avait la fête à la Pentecôte, on apportait les prémices. Et puis, il y avait la pâte. Et ce qui veut dire, c'est que si vous voulez, le point de départ est saint, le reste l'est aussi. Et ensuite, il prend l'image de l'olivier. Il dit, c'est la racine est sainte, les branches sont aussi. D'accord ? L'olivier représente Israël. Représente le peuple de Dieu, si vous voulez, la racine. Ce sont les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, qui ont eu la vision de Christ, qui ont rencontré Jésus. Vous voyez ? Pas de la même manière que nous, mais presque. Puisque Jésus dit, Abraham a vu mon jour. Vous voyez ? Quand Abraham tombe la face contre terre, que Dieu se révèle à lui, quand les anges viennent le visiter, disent, tu auras un fils, etc. C'est Jésus dans sa... avant son incarnation, qui est là, qui est présent, l'ange éternel. Vous voyez ? Donc il a vu Jésus. Il a rencontré le Seigneur. Il a parlé avec Dieu. Ces patriarches ont eu une rencontre avec Dieu. Vous voyez ?
L'ange de l'éternel, c'est Jésus ?
L'ange éternel, on peut penser que c'est Jésus avant son incarnation. C'est comme ça qu'il se révélait. Donc ce n'était pas une incarnation, c'était une révélation sur la terre de la personne de Jésus. Alors maintenant, si quelques-unes, verset 17, des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, donc quand il parle de l'olivier, la racine, on disait, c'était les patriarches, et puis ensuite il y a les branches, c'était le peuple d'Israël du temps de Paul, si vous voulez. Et puis il dit, il y a des branches qui ont été retranchées. C'est ceux qui n'ont pas accepté le Messie, qui se sont endurcis. Vous voyez ? Donc ces branches-là sont retranchées. Mais il dit, quelques-unes des branches. Il ne dit pas toutes les branches. Parce qu'il y a Paul, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont converties après la Pentecôte, etc. Donc il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous suivez ? Mais il y a des branches qui ont été enlevées. Ok. Et puis, à leur place, c'est l'image qui continue. Dieu a été prendre sur l'olivier sauvage que sont les nations, donc un olivier qui n'est pas cultivé. La différence entre un arbre qui est cultivé et un arbre qui n'est pas cultivé, c'est quoi ? L'arbre cultivé, c'est l'arbre qui connaît la loi de Dieu. C'est Israël. C'est l'arbre qui a été enseigné, qui a été instruit. C'est l'arbre à qui Dieu a envoyé des prophètes. C'est l'arbre qui a été arrosé, dont la terre a été remuée, etc., etc. Okay ? Par les prophètes, par la loi, par la mise en pratique de la loi. Donc cet arbre, il est cultivé. Les nations, elles, ne connaissent pas la loi, comme Israël. Elles n'ont pas cette culture. Elles ne sont pas cultivées au même sens qu'Israël. Vous voyez ? Donc ce sont des oliviers, c'est un olivier sauvage. Et Dieu va faire une greffe, il va couper des branches de l'olivier sauvage, il va les greffer sur l'olivier cultivé. Ok ? Donc, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu étais greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Pourquoi ? Parce que la sève, elle monte dans les arbres. Elle ne descend pas. Ok.
Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier.
Et cette sève, elle monte de la racine. Et la racine, rappelez-vous, c'est les patriarches. C'est l'Ancien Testament. C'est la révélation d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez? Donc, tu participes de cette nourriture-là, de cette sève. Ok? Il dit donc, si toi, tout à coup, qui étais un olivier sauvage, tu te retrouves sur cet arbre extraordinaire, c'est-à-dire que tu formes un même corps avec les branches qui n'ont pas été retranchées, parce qu'il y a un Israël fidèle. Tu formes un même corps avec eux, tu participes aux mêmes promesses, tu es dans la même alliance. C'est quand même une grâce extraordinaire. Nous qui étions des païens, si vous lisez Éphésiens chapitre 2, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez sans Dieu dans le monde. Et maintenant, par le sang de Christ, vous avez été rapprochés. La greffe, c'est une coupure. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé pour qu'on puisse être greffé sur l'arbre cultivé. Vous suivez toujours? On continue. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. D'accord? Dans le sens de dire, nous, on a remplacé Israël. Israël, c'était le peuple à la nucrède. Et puis, on reprend tous les passages Ancien Testament qui sont sévères. On les prend à notre compte. Et c'est nous qui devenons le juge d'un peuple qui a trébuché, c'est vrai. On les juge. Et on dit, nous, on a remplacé Israël. Nous, on est les meilleurs. Vous voyez? Et Paul dit, attendez. N'allez pas trop vite. On viendra là-dessus. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est-à-dire que la racine qui te porte actuellement, c'est quand même le peuple d'Israël. Ok? C'est les patriarches. C'est cette sève dont ils se sont nourris pendant des siècles. Et si tu veux te couper de cette racine en disant « Nous, les chrétiens au sens de non-juifs, c'est nous qui avons toute la révélation, etc. etc. » Eh bien, tu te coupes de la vie. Ok? Tu ne peux pas vivre sans cette racine. Là aussi, il faudra en parler, mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, dit Paul. Elles ont été retranchées. Mais c'est vrai, mais c'est incomplet. Vous voyez? Souvent, il y a des choses qu'on croit qui sont vraies, mais qui ne sont pas complètes. Et une vérité incomplète, c'est pire qu'un mensonge. Parce qu'un mensonge, on a vite fait le débusquer, mais une vérité incomplète, comme c'est vrai, on ne se rend pas compte qu'il nous manque une partie de la vérité, et que sans cette partie de la vérité qui nous manque, on va dans la mauvaise direction, simplement qu'on y va lentement, mais sûrement. Cela est vrai. Elles ont été retranchées. Mais attention, pour cause d'incrédulité. C'est leur endurcissement qui a fait qu'ils ont trébuché, qu'ils ont été mis à l'écart. Attention. Et toi, tu as été greffé, mais tu subsistes par la foi. Ok? Donc la vraie ligne de démarcation, ce n'est pas être d'Israël ou de ne pas être d'Israël. La vraie ligne de démarcation, c'est est-ce que je suis dans la foi ou est-ce que je suis dans l'incrédulité. Vous suivez? Est-ce que je dépends de la grâce et de la bonté de Dieu ou est-ce que je dépends de mes propres efforts? C'est ça la vraie ligne de démarcation, que tu sois juif ou non juif. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, celles qui étaient cultivées donc, il ne t'épargnera pas non plus. Et ça, mes amis, si vous arrêtez 2 minutes là-dessus et vous réfléchissez, 2000 ans de christianisme, et Dieu dit, il n'a pas épargné Israël, l'Israël naturel, cultivé, et ce christianisme qui sont des branches d'olivier sauvages greffées sur l'olivier franc, l'olivier cultivé, s'il s'abandonne à l'orgueil et s'il ne dépend pas que de la bonté de Dieu, mais qu'il pense que c'est par ses propres forces et sa propre sagesse, sa propre vertu qu'il est sur cet olivier, Dieu ne l'épargnera pas non plus. Et comme on voit les jugements de Dieu sur Israël, quels vont être les jugements de Dieu sur l'Église? Je parle de l'Église au sens des païens. Ça ne va pas être triste non plus. Il ne faut pas s'étonner si au cours de l'histoire du christianisme, il y a des pays entiers, des territoires entiers où il y avait l'Église, et tout a disparu. Tout a été mangé par l'islam. Parce qu'il y a des jugements aussi sur les branches sauvages greffées sur l'olivier franc qui se sont crues capables d'être toutes seules et qui ont oublié que la racine qui les portait, c'était ce fameux peuple qui, pendant des siècles, était bon gré mal gré dans l'Alliance. Vous voyez ? Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. C'est-à-dire, si tu te rappelles à chaque instant, c'est uniquement par grâce, je ne le mérite pas. Vous voyez ? Si tu es dans cette attitude-là, alors c'est bon. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, et merci Seigneur, il y en a beaucoup qui se tournent actuellement vers lui, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Alléluia. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sous l'olivier franc, c'est-à-dire cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Est-ce que vous suivez ? C'est logique. Hein ? Alors, je reviens sur la racine qui te porte. Ok ? Le problème de l'Église, alors évidemment là, il faudrait prendre beaucoup de temps pour ça, mais on peut en parler un petit peu. Le problème de l'Église, c'est assez particulier, et ça mérite une analyse historique assez fine, donc il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais premier problème, c'est que l'Église s'est substituée à Dieu pour juger Israël. Qui est juge ? C'est nous ? Non, c'est Dieu. Donc que Dieu est indifférent avec son peuple d'Israël, et que Dieu est à juger Israël, et a des choses à lui dire, ça regarde Israël et son Dieu. Vous voyez ? Admettons que vous avez un frère ou une sœur, et que ce frère et cette sœur commettent un péché, ou s'endurcissent, ou tombent dans l'incrédulité. Ok ? La Bible dit, va vers ton frère en particulier, essaye de le gagner. Si tu as gagné ton frère, tu couvres une multitude de péchés. D'accord ? La Bible ne dit pas, condamne-le, convoque tout le monde, persécute-le, frappe-le. Elle ne dit pas ça. Elle dit, va vers ton frère, essaye de le gagner. Prie pour ton frère. Ok ? Donc l'attitude que Dieu nous demande vis-à-vis du frère qui est tombé, c'est une attitude de grâce, de prière, d'aller vers lui seul à seul, essayer de gagner son cœur. Vous suivez ? C'est vraiment ça. C'est seulement s'il continue à s'endurcir, etc., que pour finir, on peut dire, bon, ok, dans ce cas-là, tu mets quand même une certaine barrière pour pas... Mais au départ, c'est, vous voyez, c'est une attitude qui est une attitude vraiment fraternelle, d'aller chercher le cœur de la personne, essayer de la rattraper alors qu'elle est tombée. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'a fait l'Église historiquement ? À partir de Constantin, mais avant, c'est difficile de savoir, parce qu'on a, les renseignements sont assez enfin, on a assez peu de documents. Mais à partir de Constantin, on a pas mal de documents, parce que c'est l'Empire romain, c'est un empire très administratif, on a des conciles, on a des décisions, on a la justice romaine, donc il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais, en bref, donc au IVe siècle, avec le code Théodose, ensuite, au début du Ve siècle, on voit qu'il y a un durcissement face à Israël, et l'Église qui maintenant est au pouvoir, qui a l'armée avec elle, puisque l'Empire est devenu chrétien, voyez, l'Église commence à se durcir vis-à-vis d'Israël, et en fait, le raisonnement c'est de dire, on va les laisser vivre pour qu'ils puissent expier leurs fautes et contempler leur misère. Donc à la fois, il faut les laisser vivre, et en même temps, il faut les maintenir dans un état de sujétion, un état de misère, voyez, où ils sont abaissés, pour bien qu'ils se rappellent, c'est eux qui ont commis le crime de déicide. Parce que dans la théologie catholique, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Bon, ce qu'ils se souviennent pas, c'est que c'est les Romains qui l'ont tué. Alors bien sûr, tout le monde a participé. Et en réalité, la réalité, c'est que ce sont mes péchés qui ont crucifié Jésus, que ce soit ceux d'Israël, que ce soit ceux des Romains, que ce soit ceux des Grecs ou des Français ou des Japonais, c'est nos péchés qui l'ont crucifié. Ok ? Alors, parce que même dans le peuple d'Israël, il y avait des gens qui, comme Nicodème, comme, qui n'ont pas participé à la décision de ceux qui ont condamné Jésus à mort. Vous voyez ? Ou comme Joseph d'Arimathée, ou ces gens-là. Donc même dans le Sanhédrin, il y a des hommes qui n'ont pas participé à la décision. Donc c'est faux de dire crime de déicide, etc. C'est, hein, c'est complètement absurde. Mais, et puis, donc les catholiques s'appuyaient là-dessus pour dire donc les juifs méritent qu'on leur fasse la vie dure. Vous voyez ? Et ça a été tellement loin que certains, au moment des croisades, quand ils partaient aux croisades, ils ont tué des milliers, ils ont massacré des milliers de juifs sur leur passage. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont tué le Christ, donc il faut se venger sur eux. Maintenant, le pape, lui, disait « Non, non, il ne faut pas faire ça. » Il écrit des lettres en disant « C'est pas bien ce que vous faites. Il faut les laisser en vie. » Mais, sous-entendu, les laisser en vie pour qu'ils puissent contempler leur propre souffrance. Donc c'était à double tranchant, vous voyez ? Et ça, c'est l'histoire des pogroms, des exactions, des massacres sur massacres sur massacres. Pendant 2000 ans d'histoire chrétienne, les juifs ont été massacrés. Ils ont été, on leur enlevait, ils n'avaient pas le droit d'avoir des fonctions publiques. Ils n'avaient pas le droit de, vous voyez, ils étaient, on leur mettait au, à partir de, du XIIIe siècle, ça commence en Languedoc, on leur met sur la poitrine une roue qu'on appelait la rouelle. Ce n'était pas encore l'étoile jaune, mais on n'était pas loin, vous voyez. Et donc, déjà au Moyen-Âge, ils étaient stigmatisés, ils étaient mis de côté, etc., etc. Et pourtant, cette même Église catholique, et puis ensuite ça a continué, Luther a été terrible avec les Juifs, il n'y a pas que les catholiques. Mais cette même Église catholique, si on reprend l'histoire du Moyen-Âge, elle connaissait Romains chapitre 11, et elle interprétait à sa manière, en disant « il faut les laisser vivre ». Je vais vous lire un texte qui vous donne un petit peu la... Donc ça date du XIe siècle. Le pape Alexandre II adresse la lettre suivante aux évêques d'Espagne ou de Narbonnaise, c'est-à-dire du Languedoc. « Ce que nous a récemment rapporté de vous nous a plu. Comment vous avez protégé les Juifs qui demeurent parmi vous, empêchant qu'ils ne fussent tués par ceux qui partaient pour l'Espagne, guerroyer contre les Sarrasins, c'est-à-dire partir en croisade. » Voyez. Donc, entre parenthèses, ça prouve que souvent, quand ils partaient guerroyer contre les Sarrasins, au passage, ils massacraient les Juifs. Mu par une sotte ignorance ou par une cupidité aveugle, mais ce qu'il oublie, c'est que cette sotte ignorance et cette cupidité aveugle, elle avait été nourrie par les pères de l'Église, qui étaient terribles avec les Juifs, que ce soit Chrysostome, la bouche d'or, qui avait dit des choses terribles sur les Juifs, voyez, ou d'autres. Ils voulaient le meurtre de ceux que la divine piété a sans doute prédestiné au salut. Voyez, on sent qu'il y a un petit doute, mais comme il connaît Romains 11, il ne peut pas dire autrement. Ainsi, même Saint Grégoire s'opposa-t-il à certains qui brûlaient de les détruire, affirmant qu'il est impie de vouloir détruire ceux qui ont été conservés par la miséricorde divine pour vivre dispersés partout dans le monde, après avoir perdu leur patrie et leur liberté, condamnés pour avoir versé le sang du Sauveur à une longue pénitence. Donc sous-entendu, Rome se garde le droit de maintenir les Juifs dans cette longue pénitence, parce que c'est la volonté de Dieu, vous voyez. On se substitue, l'air de rien, c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui a affaire avec celui qui a un problème. Et notre job, à nous qui n'avons pas le problème, c'est de gagner son cœur, c'est de l'aider à retourner vers Dieu, mais ce n'est pas de se substituer à Dieu en disant « c'est bien fait pour toi, tu n'avais pas qu'à », etc. etc. Oui, je veux dire. La ligne de démarcation, si on prend juste l'exemple de deux personnes dans une église, sans parler des Juifs, sans parler de l'histoire, entre « c'est bien fait pour lui », ça lui apprendra. Et puis, aller vers la personne, essayer de gagner son cœur. Vous voyez ? C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans. On a dit, c'est bien fait pour eux. On s'est substitué à Dieu. Et en plus, quand il n'y avait pas le pape pour un peu régler les choses, on les a massacrés. C'est nos pères, hein, qui l'ont fait. C'est nos pères, hein. Faut pas... faut pas dire qu'au temps de Jésus, blanchir le tombeau des prophètes, vous savez. Et puis, donc on a un gros dossier, un énorme dossier. Et donc quand Paul parlait aux Romains 11, il était vraiment prophétique. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc là, maintenant, non seulement il ne sait pas à nous de nous substituer à Dieu, c'est Dieu qui règle ses comptes avec son peuple. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Vous comprenez? Vous remarquerez une chose, c'est quand le frère aîné n'est pas content que le fils cadet soit accueilli pour la fête, le père sort pour aller parler seul à seul avec le frère aîné. Vous voyez? Donc Dieu est capable de sortir pour aller vers son peuple et s'occuper de lui. Notre job, c'est de faire grâce. C'est de gagner leur cœur. C'est de prier pour eux. On devrait avoir comme priorité, en tant que chrétien, de gagner Israël. Ça devrait être notre priorité. Il est dit que Jésus dit à son peuple, à Jérusalem, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit pas renversée, etc. Enfin, il annonce des jugements. Il dit, et tu n'as pas connu le temps de ta visitation, jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, Jésus rentrera de nouveau dans son temple. Mais pour que Israël puisse dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il faut qu'Israël soit sauvé. Il faut qu'Israël reconnaisse que Jésus est le Messie. Vous comprenez? Et comment est-ce qu'ils vont le reconnaître s'il n'y a personne qui leur annonce? Et donc il y a des hommes et des femmes dans le monde qui ont été touchés par Dieu pour aller en Israël, pour parler à ce peuple et pour les gagner. Mais pas les gagner en disant c'est bien fait pour vous, voyez, ce qui est la plus énorme bêtise que vous puissiez faire, mais en les aimant et en réalisant finalement c'est la racine qui me porte. Voyez. Et leur fidélité, parce que Paul dit dans Romains 3, les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, alors qu'on persécutait les Juifs d'une certaine manière, qu'il y avait des flambées de violence, qu'il y avait, etc., en même temps, il y avait des érudits chrétiens qui allaient voir les rabbins et ils disaient aux rabbins, expliquez-moi l'Ancien Testament, parce qu'ils n'y comprenaient rien. Il n'y avait que les rabbins qui connaissaient l'hébreu vraiment, qui connaissaient... Vous avez Rashi, qui était un commentateur extraordinaire au XIe siècle, justement, à l'époque où je vous ai lu le texte du pape, qui était un commentateur de l'Ancien Testament, qui est encore aujourd'hui qui est une référence. Vous voyez? Ça, c'est la racine qui nous porte. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans l'aide du peuple d'Israël, et on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Alors, comment vous allez faire? Si vous vous coupez d'Israël, d'accord, en disant, non mais Israël c'est un peuple comme les autres, ils ont besoin du salut. C'est vrai que du point de vue du salut, c'est un peuple comme les autres. Mais du point de vue de l'élection, c'est pas un peuple comme les autres. Vous comprenez la différence? Et donc si on se coupe de cette racine-là, et qu'on pense qu'avec notre Nouveau Testament, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament, et qu'on va suffire à nous-mêmes, on se coupe de la vie même que Dieu nous a donnée, de la sève, et on va mourir. Comment on se rattache à Israël? En priant pour eux, en les aimant, et puis en...
Les églises qui sont actuellement...
Qui sont?
Ben, qui prêchent pour Israël,
Oui, il y a des églises... Alors... Après, si vous voulez, on n'a pas le temps de tout développer parce qu'il y a toute la question aujourd'hui du retour d'Israël, la question de la politique, la question de la Palestine, etc. etc. Donc, c'est impossible là. On essaie de commenter au Romains 11. Dans l'heure qui va suivre, on va répondre à ces questions. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez simplement là, au niveau de ce que dit Paul avec l'histoire de l'olivier, et comment est-ce qu'on revient vers cette racine, c'est qu'on se laisse nourrir par cette racine. Donc, on ne néglige pas l'Ancien Testament, on ne néglige pas tout ce que Israël peut nous apporter par rapport à l'Ancien Testament, d'accord, on en tient compte et on a cette relation avec eux, mais en même temps on veut les gagner à Jésus-Christ. Tout ça doit être fait en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que en lui que le voile est enlevé. Vous suivez? Et donc vous avez ce type de relation, je dirais prophétique, entre Israël et les nations, où Dieu a utilisé certains hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Mais je n'ai pas le temps de développer ça ici, je pourrais donner des exemples. Tout à l'heure, on va continuer à partir du verset 25. Ok? À tout de suite.